parloir libre. Des témoignages de personnes concernées de près ou de loin par l'enfermement.
Bonjour. Oui, en effet, l'évasion, quand on parle d'évasion, surtout en prison, ce qu'on imagine, c'est l'évasion physique. C'est la plus belle des évasions. C'est changer, partir, se reconstruire quelque chose parce qu'on est dans une situation qui ne convient pas. Et bien sûr, comme je pense tous les prisonniers, et pas que les prisonniers, j'ai pensé à m'évader. Alors, quand on a parlé des autres formes d'évasion, je me suis dit, je vais quand même raconter cette petite histoire, parce que c'est les choses qui marquent. La première fois que je suis allé en prison, ça a été un véritable choc. La prison était si vieille, paraissait si vétuste, que j'ai eu l'impression d'être transporté des siècles en arrière. C'était vraiment la première impression. Les odeurs, l'atmosphère, le ressenti, des choses assez horribles. Et à partir de là, il n'y a plus qu'une idée qui m'a hanté, c'était de m'évader. M'évader vraiment physiquement. Et j'ai passé mon temps, j'ai passé mes journées, partie de mes nuits, à imaginer comment on pouvait partir de cet endroit-là. Surtout quand on est isolé et sans soutien extérieur. Alors je regardais quand j'allais tous les parcours, je les analysais. J'ai regardé sur le chemin de l'infirmerie, j'ai regardé sur le parcours entre ma cellule et le parloir famille, le parloir avocat. J'ai imaginé plein de plans, mais c'était bon, ça résistait pas longtemps à l'analyse. Et puis, il y avait aussi des projets qui n'aboutissaient pas, parce qu'il y en a un qui était transféré, ou des choses un peu plus collectives, où on se sent un peu plus rassuré, jusqu'au jour où un copain m'a parlé d'un projet collectif d'évasion sur le trajet de la prison au palais de justice. Et il avait réussi à se procurer deux clés. Alors il y avait deux clés des monottes, parce qu'on est toujours enchaîné quand on est transporté à l'extérieur d'un point à un autre. Il y avait une clé qui était de fabrication artisanale. C'était fait maison. C'était la clé qui ouvre la monotte quand elle n'est pas en sécurité. Et puis ils avaient réussi à se procurer la clé de sécurité, celle qui commençait à enlever la sécurité avant d'ouvrir le truc. Ce qui restait à faire, c'était de les tester. Et la mission que j'avais acceptée était, lors d'un déplacement au palais de justice, de tester ces clés, voir si ça fonctionnait bien, pour ensuite favoriser une évasion. Alors je me souviens bien quand on est monté dans le camion des transferts de la prison au palais. C'est un camion avec des vitres opaques, très hautes, et à l'intérieur, c'est des petits box grillagés dans lesquels on est enfermé. Et du coup, moi, ça m'a servi d'abri, et j'ai pu essayer mes clés, qui fonctionnaient complètement. J'ai eu la satisfaction d'enlever les monottes qui m'entravaient. La mission était réalisée. Et en arrivant au palais, parce que ça m'a pris quand même un certain temps, il y avait le surveillant qui naviguait entre les cages. Et quand on est arrivé, le camion s'est engagé, c'est le palais de justice de Lyon, s'engageait dans une ruelle où il manœuvrait. Et ensuite, il venait en marche arrière, incruster son camion dans le portail du palais de justice, les je sais plus combien de colonnes.
24.
Je ne les ai pas comptés. J'ai oublié le nombre. Et s'incrustaient dans ce portail dont ils remplissaient tout l'espace. Il restait des espaces très petits, à peu près comme ça, en estimant, c'était une vingtaine de centimètres. Et j'ai passé un temps incroyable. Alors, ils nous faisaient descendre, et ils faisaient une chaîne, c'est-à-dire qu'ils nous attachaient tous en même temps. Et là, il fallait attendre à peu près une dizaine de minutes qu'un garde du palais de justice vienne avec une énorme clé, j'ai jamais vu des clés pareilles, pour ouvrir une porte qui permettait d'accéder au bâtiment. Et je regardais cet espace, je m'étais placé en bout de film, plus par confort qu'avec une idée préconçue. Et je regardais cet espace, et ces 20 cm derrière laquelle on voyait passer des gens qui circulaient dans la rue. Et j'avais ces clés qui me brûlaient, elles étaient dans la paume de ma main. Et j'étais là et je disais, mais bon sang.
Vas-y.
J'ai longtemps hésité. Alors, je me disais, en plongeant et en rampant, je vais pouvoir passer entre le pneu et le montant du portail. Et je regardais mes gardes qui, eux, étaient mieux et plus nourris que nous. Je me disais, ils ne pourront pas me suivre. Si je passe cet obstacle-là, j'ai une chance de m'échapper. Restait le conducteur. Enfin, on imagine tout, on est en train de faire un film. Il y a le conducteur qui restait, lui, dans sa cabine. Alors, j'évitais de penser qu'il était armé, parce que c'était décourageant. Et je me disais, le temps qu'il réalise ce qu'il a, moi j'avais 21 ans, hein, et je me disais, je cours vite, j'ai des chances. Et puis, en même temps, j'étais chargé d'une mission, c'était pour une évasion collective. Donc je ne me sentais pas le droit, j'ai été tiraillé, enfin, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Et finalement, j'ai renoncé à le faire. Donc je ne me suis pas évadé, je suis rentré avec la fournée du jour des extractions palais. Voilà, je tenais à dire ça. La deuxième fois que je suis allé en prison, la situation, et notamment la situation familiale, avait changé. Et j'ai passé à peu près 5 ans à me battre avec le juge d'instruction parce que je me battais contre les inculpations qui m'étaient faites. Et l'instruction a duré 5 ans. J'ai essayé tous les arguments. Mais ça me mobilisait l'esprit. J'étais dans quelque chose où j'étais pas passif, j'étais acteur. Et j'imaginais tous les points qui pouvaient aider à déconstruire ce dossier à charge du juge d'instruction. L'instruction a duré 5 ans. Pour essayer d'accélérer la procédure. Simplement pour ça, j'ai fait une grève de la faim de 30 jours. J'ai perdu 18 kilos. Et puis, ça n'a pas changé grand-chose. Finalement, quand j'ai été jugé, j'avais pratiquement fait ma peine. Je suis sorti de là avec beaucoup de colère. Mais avant de sortir, je n'ai pas fait que me battre sur le plan juridique. J'ai aussi imaginé que j'avais pas le bagage intellectuel pour mettre des mots ni sur ma révolte, ni sur les actions. Enfin, je me sentais très démuni, comme la plupart. Hein. Une grande partie de la population pénale est analphabète et illettrée. Et j'ai entrepris de recommencer des études. J'étais entré en prison avec un certificat d'études primaires. J'avais dû arrêter ces études à 14 ans pour des raisons financières. Et là, de me replonger dans ces études, j'ai vraiment en même temps retrouvé une activité qui n'était pas passive, enfin pas une activité passive, une activité pas négative. En même temps, il y avait quelque chose qui m'importait, les peines sont calculées en temps, et il y a une sorte de déni du temps. Les longues peines disent souvent qu'au bout de leur peine de prison, ils ont le sentiment d'avoir toujours l'âge qu'ils avaient en entrant. Il y a une sorte de déni. Et pour lutter contre l'usure du temps, des gens qui, ça je l'ai fait à une époque, qui passent leur journée à faire du sport, de façon à résister à cette usure qui multiplie finalement les séquelles de l'enfermement. Et alors, ça a été là un autre combat. Il y avait un combat à mener avec le juge d'instruction qui me donnait une certaine liberté. J'avais le sentiment d'être dans la défense de principes aussi. Il y a eu ces études qui ont été menées tambour battant. Puisqu'en quelques mois, je me suis retrouvé à présenter l'examen d'entrée à l'université. Et puis toutes les bagarres qu'il a fallu mener pour pouvoir m'inscrire au baccalauréat, m'inscrire à l'université, obtenir un droit de visite pour un professeur qui était d'accord pour venir m'aider et puis centraliser par rapport aux autres enseignants de la fac de psycho. Enfin, ça a été compliqué, mais enfin bon, je suis allé plus loin et ça m'a permis de m'impliquer davantage en tant que militant contre la prison, mais surtout contre les dégâts de la prison sur les gens. Donc il y a eu la création une tentative de création de syndicat de prisonniers qui m'a valu de me retrouver un peu plus en prison, à l'isolement. Et puis l'arrivée d'un sous-directeur de prison, complètement atypique, utopique même, qui a pris l'initiative d'ouvrir les quartiers de sécurité où j'étais, où d'autres étaient, en conservant les mesures de sécurité des grilles aux bâtiments. Et là, il est resté à peu près un an, et puis il a été viré. Enfin, diplomatiquement, on lui a fait un placard doré, il est venu. On lui a dit de rester chez lui, quoi, il conservait son salaire. Et il est devenu historien des prisons, voilà. Donc il allait faire des colloques dans les nappes. Bon, ça n'est pas satisfait, je crois que ça n'a même jamais remis. Mais ça a été une belle aventure et ça nous a permis de créer un journal des prisonniers. Je crois qu'il n'a pas d'égal, parce qu'il s'est appelé L'Écrou et il a duré une douzaine d'années. Ils ont fini par l'avoir aussi. L'usure, les difficultés. N'empêche que je suis sorti de cette deuxième incarcération avec le sentiment que pour moi les choses étaient réglées. J'avais mené un peu mieux le langage, j'avais des diplômes, une maîtrise en psychologie. Le problème, c'est que j'ai jamais trouvé de boulot, quoi. Alors sur les chantiers, pousser une brouette, ça c'était possible. Mais pour moi, c'était inimaginable. Non pas que ce soit pas que le boulot me fasse peur, mais j'acceptais pas qu'on me mette dans cette situation-là encore, comme on m'a mis toute ma vie dans des cases. Et ce qui est arrivé, c'est une troisième incarcération. Et là, J'avais épuisé les différents modes. La situation familiale avait beaucoup changé. J'avais une compagne et des enfants. Je ne m'imaginais pas les emmener en cavale avec moi. Je n'imaginais pas non plus ne plus pouvoir les voir si moi je réussissais à partir. Les études, ça va, j'avais donné. Je ne voyais pas à quoi ça pourrait me servir davantage. Si bien que j'ai subi une grosse dépression et que la seule alternative que j'imaginais, c'était le suicide. Et c'est une pensée qui m'a accompagné pendant des mois, qui me faisait même plus peur. C'était une réalité que je testais un petit peu tous les jours, en disant, est-ce que je suis capable aujourd'hui de le faire, si c'est nécessaire. Et tant que j'avais l'impression que j'étais capable de passer à l'acte, je reculais d'un jour. Parce que j'avais comme mission, c'était de m'expliquer auprès des gens que j'aime, pour leur dire pourquoi j'en arrivais à cette extrémité-là, parce que je voyais plus d'issue. Et faire qu'il l'accepte, quoi. Et c'est au moment d'un séjour au Mitard, où j'avais un peu de papier sur moi et un crayon, souvent ça dans mes poches, et j'ai commencé à raconter, à leur expliquer. Et c'est des papiers que j'ai transmis à ma compagne ou au parloir suivant, de manière clandestine. Hein. Et il m'a reposé des questions. Et comme ça, de fil en aiguille, on a écrit. Et finalement, l'écriture m'a éloigné de ce projet un peu morbide. Et est devenu une nouvelle forme d'évasion. Là, je suis mis à naviguer dans l'imaginaire, créer des personnages, à vivre autre chose. Et c'est la plus belle évasion que j'ai connue. Voilà. Je vous remercie.
Vous venez d'écouter une émission réalisée par Radio DC.